OK, on continue notre leçon qu'on avait débutée la semaine dernière sur le survol des 66 livres de la Bible. On avait regardé un survol général. On avait regardé plusieurs points, comment la Bible nous était parvenue, la symétrie des livres, autrement dit, comment elle est organisée. Ensuite, on avait vu qu'il y avait une différence dans l'organisation des livres de la part des Juifs. Si on la compare avec les chrétiens, et on avait donné quelques statistiques sur le nombre de Bibles qui a été publié on parlait de 20 millions d'exemplaires, le nombre de chapitres et tout ça. On était rendu là. On était rendu à la chronologie biblique, et le but de la chronologie biblique, bien entendu, quand on lit, si vous allez lire n'importe quel commentaire, surtout sur l'Ancien Testament, on va souvent utiliser des dates, 400, 600, 800 avant Jésus-Christ. Autrement dit, plus le chiffre grossit, plus on s'en va vers le début, vers Adam. Alors, nous autres, c'est le contraire. À partir de Christ, à partir de quand Jésus est venu, à venir jusqu'à aujourd'hui, les chiffres, ils augmentent, mais en s'en allant, on est rendu en 2020. Mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand ils disent... Par exemple, je ne sais pas, mais ils vont dire 400, en l'an 400 BC, vous lisez ça, vous savez que c'est 400 avant Jésus-Christ. Donc, les chiffres augmentent en s'en allant vers le début, vers la Genèse, et les chiffres commencent à augmenter de 0 à 2, jusqu'où on va se rendre. Ça, c'est important de savoir ça, parce que sinon, on peut devenir mêlé un petit peu. Ici, j'avais mis aussi un exemple et un point de repère pour des datations importantes dans l'Ancien Testament. C'est sûr que je n'ai pas tout mis. Il y aurait le tableau qu'on a mis sur le mur, là, qu'une bonne fois, il faudrait que je vous l'explique exactement comment ça fonctionne. C'est intéressant, on peut trouver des choses extrêmement intéressantes que si vous voudriez trouver certains faits, quelle année ça s'est passé, les affaires de même, vous seriez obligé d'aller fouiller dans les commentaires, vous pourriez chercher longtemps. Avec ça, vous pouvez trouver un paquet de réponses extrêmement rapidement. C'est un super de bon outil. Je faudrait que prendre, je sais pas moi, 15-20 minutes, là, puis vous l'expliquer comment ça fonctionne. OK, ici, j'ai marqué des points. Par exemple, quand on dit 2000 BC, donc c'est 2000 ans avant Before Christ, donc avant Jésus-Christ. Donc on avait Abraham. Après ça, 500 ans après, on a eu Moïse, David, Daniel, et quand on arrive à Jésus, ici, j'ai marqué 1 AD. AD, c'est Anno Domini, qu'il y avait. C'est ça. Alors, c'est après Christ. Très important de savoir ça. Mais on parle de 1, mais dans le fond, c'est plus, selon les spécialistes, quand on étudie Matthieu ou l'introduction au Nouveau Testament, on parle plus de 5. En tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste de la chronologie biblique, là, mais c'est ce que je me souviens, en gros. Donc, ce qu'on va faire, là, c'est comme ce soir, on va regarder un petit peu une présentation générale du livre. Dans la version Darby, pourquoi je l'ai mis là, c'est parce que je me souviens que j'ai déjà utilisé la version Darby. Et à un moment donné, au début, il y a comme on appelle ça des notes au lecteur. Et j'avais trouvé que le texte qu'il avait écrit pour présenter la Bible était particulièrement bien fait, et je vous l'avais noté. Et voici ce qu'il dit dans la page de présentation de la Bible Darby. Il dit, vous avez entre les mains la Bible, appelée aussi les Saintes Écritures ou la Parole de Dieu. Ce qui fait de celle-ci un livre différent de tous les autres, c'est en effet son auteur. Dieu lui-même, le Créateur, qui parle à l'homme, sa créature. De ce fait extraordinaire découlent les plus grandes conséquences. Premièrement, ce livre s'adresse bien à vous, qui faites partie de ces créatures. Deuxièmement, il doit être abordé avec respect et humilité. Troisièmement, son contenu ne peut être que la vérité sur tout ce que l'homme a besoin de savoir, non pour satisfaire sa curiosité, mais pour éclairer son univers moral. Quatrièmement, nous pouvons nous attendent à y trouver ce que aucune science ne pourrait jamais nous enseigner, ce qui est au-delà des limites et investigations humaines, savoir la réponse aux grandes questions que l'homme ne cesse de se poser sur ses origines, son destin, le sens de la vie, les problèmes du mal, de la mort et de ce qui la suit. Cinquièmement, bien que rédigé au cours d'une période de plus de 15 siècles par une quarantaine d'écrivains très différents, elle présente une unité et une continuité remarquables du fait justement qu'elle est l'œuvre d'un auteur unique, l'Esprit de Dieu, lequel a dicté à chacun des rédacteurs des différentes parties les messages particuliers qui lui étaient confiés. Sixièmement, et bien que les dernières pages datent de près de 2000 ans, la Bible reste toujours d'une actualité frappante. En l'écrivant, Dieu parlait déjà pour les hommes de notre génération. Il parlait pour vous qui la lisez. Très intéressant. Je trouve que pour présenter la Bible, là, c'est difficile de faire mieux. Alors, bien entendu, ça, c'est une chose qui n'est rien de nouveau, que la Bible est divisée en deux grandes parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament, qui a été écrite avant la venue de Jésus sur la terre, et elle comprend 39 subdivisions ou livres. Alors, on l'avait vu la semaine dernière. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Dans le Nouveau, il y en a 27. 27 plus 39, ça fait 66. Et donc, le premier, c'est la Genèse, qui relate les origines de l'humanité jusqu'à la formation du peuple d'Israël. Ça donne bien, on vient de finir la semaine dernière l'étude de la Genèse. Ensuite, il y a les quatre livres suivants, qui sont aussi écrits par Moïse, qui contiennent la loi, ce qu'on appelle la loi, donnée par Dieu à ce peuple d'Israël, reconnu comme son peuple, et ça raconte l'histoire de cette nation-là à travers le désert, depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à son entrée au pays de Canaan. Ensuite, il y a les livres qu'on dit historiques. On avait vu la semaine dernière les divisions, le nombre de livres. Donc, de Josué à Esther, ça englobe une période de près de 10 siècles marquée par l'amour et la grande patience de Dieu envers ce peuple ingrat et rebelle et par les châtiments qu'il dut leur infliger. 5 livres poétiques ou didactiques qu'on appelle comprennent entre autres le livre des psaumes et aussi 17 écrits des prophètes qui s'accomplètent la révélation de Dieu en rapport avec Israël. Toute cette longue histoire d'un peuple éminemment privilégié et finalement rejeté démontre que l'homme, même placé dans les conditions les plus favorables, est absolument incapable d'accomplir la volonté de Dieu et de se maintenir ainsi dans sa faveur. Mais en même temps, toute cette première partie de la Bible annonce la venue sur la terre du Fils de Dieu, le Christ, le Messie promis, qui va enfin rendre possible les relations heureuses et durables entre l'homme et Dieu. Donc, on vient de résumer très, très rapidement les 39 premiers livres de la Bible. Maintenant, on va résumer très, très rapidement les 27 livres du Nouveau Testament. Donc, la seconde partie de la Bible, le Nouveau Testament, commence avec la venue de Jésus-Christ dans ce monde et nous révèle les bénédictions infinies qu'il nous a apportées, lui, le Fils de Dieu. Donc, il y a 4 évangiles, rien de nouveau, chacun sous un jour particulier, le passage sur la terre de cette personne divine qui s'est abaissée jusqu'à vivre une vie d'homme parfait, et à mourir sur la croix pour sauver ceux qui croient en lui. Donc, les 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus quand il était sur la terre. Ensuite, on tombe dans le livre des Actes des Apôtres, qui montre comment le message de ce grand salut a été proclamé dans la puissance du Saint-Esprit et reçu avec foi par des multitudes qui sont ainsi passées de la perdition à la vie éternelle et qui constituent l'Église ou qu'on appelle des fois autrement l'Assemblée. On a après ça toutes les épîtres. Les épîtres, c'est un mot qu'on utilise, mais dans le fond, ça veut dire lettre. Une épître, c'est une lettre qu'on écrivait. Quelqu'un qui écrivait une lettre puis l'envoyait dans les différentes églises. Donc, on appelle ça une épître, mais une épître, c'est tout simplement une lettre. Donc, les épîtres développent la doctrine chrétienne, précisent le plan de grâce de Dieu, apportent aux croyants la certitude qu'il est sauvé, qu'il a la vie éternelle, qu'il est un enfant bien-aimé de Dieu, et que Jésus, son Sauveur, l'introduira dans la gloire pour y être éternellement dans sa compagnie. Les épîtres fournissent aussi aux fidèles les enseignements et les encouragements utiles pour vivre en disciples et témoins de Christ. Et le dernier livre, l'Apocalypse, termine les Saintes Écritures par la révélation sous forme généralement symbolique des événements à venir. Au début de la Bible, Scofield, lui aussi écrit comme un genre de vue panoramique de la Bible. Voici ce qu'il dit. « La Bible est le livre le plus largement répandu. Même l'incrédule éprouve le besoin de la sonder, car il trouve ridicule de demeurer dans une ignorance totale du livre le plus ancien et le plus célèbre. » Quand on parle de 20 millions, il n'y a jamais eu un livre sur toute la terre, de toutes les époques, de tous les hommes, qui a jamais été publié sur aussi grand nombre d'exemplaires. Le monde va se garrocher pour aller acheter un livre qu'ils considèrent comme un best-seller. Ils vont dépenser bien de l'argent. Pourtant, il y a des Bibles des fois, on est prêt à leur donner. C'est le plus grand best-seller de tous les temps. Puis celui-là, ils ne veulent pas le lire. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on peut deviner un petit peu. OK. Donc, c'est le plus ancien, le plus célèbre. Il est vrai que l'on peut être déconcerté en lisant pour la première fois la parole de Dieu. Souvent, les croyants les plus sincères se découragent de faire l'effort nécessaire pour assimiler le contenu des textes sacrés. Il ne faut pas chercher bien longtemps, bien loin, c'est-à-dire la raison de cet état de choses. Ils ignorent qu'aucun passage des Écritures ne peut être accompli sans une vue d'ensemble de la Bible. L'histoire et le message de la Bible sont comme le dessin d'une mosaïque. Chaque livre, chaque chapitre, chaque verset et chaque mot constituent un élément essentiel qui a sa place appropriée. C'est pourquoi une connaissance générale de l'Écriture est indispensable à toute étude intelligente et fructueuse de la Bible. Ça, c'est définitivement un problème du christianisme du 20e siècle, surtout du 20e siècle. J'ai lu encore récemment un livre qui parle de la quantité très, très faible de connaissances des Écritures qu'on a aujourd'hui. Je parle dans le milieu chrétien en général, très général. Ils ont fait je sais qu'ils ont fait des tests, ils ont fait des examens, ils ont fait des sondages, et ils disent que les chrétiens modernes ont une très, très faible connaissance. C'est presque... Tu sais, quand quelqu'un ne sait pas lire, on appelle ça, je me souviens...
Un alphabet.
Ben, semble-t-il que l'analphabet biblique existe même chez les chrétiens. Ça ne devrait pas, là. Ça ne devrait pas, là, à quelque part. Alors, quand il dit que c'est difficile de comprendre la Bible, c'est difficile si tu ne l'étudies pas, si tu ne la lis pas. Si tu n'as jamais lu l'Ancien Testament, moi, je m'en ai pas écrit, par exemple. Je me souviens d'avoir déjà prêché à Rwanda sur le livre de Hébreux. Je l'avais pris du début jusqu'à la fin, verset par verset, on l'a tout étudié au complet. Je défie quelqu'un de comprendre le livre d'Hébreux s'il n'a pas aucune notion de l'Exode, de Lévitique. C'est plein de références à ça. Si tu lis juste des mots, lire un mot, ou lire une phrase, ou lire un paragraphe, si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu n'en tires pas grand bienfait. C'est pourtant le cas de nos jours. Je suis convaincu qu'il y a un paquet de monde qui lisent le Nouveau Testament et qui passent sur des passages qui ne comprennent vraiment rien de ce qu'ils lisent. puis ils prennent pas la peine de fouiller, puis d'étudier, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si vous prenez le livre d'Hébreux, là, c'est bourré de références au tabernacle. Si tu n'as jamais étudié le tabernacle dans l'Ancien Testament, dans Exode, c'est dans entre Exode 25 et Exode 40. Si tu n'as jamais étudié ça de ta vie, là, ben je te mets au défi de m'expliquer ce qui est marqué dans le livre d'Hébreux. Je te mets au défi. Tu ne peux pas comprendre. C'est pas compliqué. Alors, la Bible, c'est un livre qui est complet en soi, qui comprend 66 livres. Tu ne peux pas comprendre le nouveau si tu n'as pas une connaissance de l'ancien. Parce que tu vas le comprendre très mal, ou très peu, ou pas du tout. C'est de valeur. Alors la Bible, bien entendu, ça forme un ensemble, et il y a une unité dans la Bible, et l'unité vient du fait, tout à l'heure on disait, elle a été écrite, sur 1500 ans, c'est long, sur 1500 ans, là, par 40 auteurs différents, et ça se tient. Comment peux-tu expliquer ça autrement que par c'est le Saint-Esprit qui a inspiré chacun de ces hommes-là à ce que ça se tienne? Ça ne se tiendra pas. Tous les livres parlent de Christ d'une façon ou d'une autre, mais bien souvent, c'est des auteurs qui ne se connaissaient pas les uns les autres, avec des métiers aussi différents que... des rois, l'autre c'est un berger, l'autre c'est un si, des métiers extrêmement différents, puis si vous prenez tout ça, ça se tient debout. Il y a quelque chose là-dedans. Alors la Bible présente un seul Dieu, quoi qu'il parle ou qu'il agisse, il est conséquent avec lui-même et avec toute la révélation qu'il concerne. La Bible compose une histoire suivie, celle de l'humanité en relation avec Dieu. La Bible fait part des prophéties les plus improbables et elle décrit l'accomplissement de certaines d'entre elles. La Bible révèle progressivement la vérité. Rien n'est dit d'emblée dans sa totalité ou définitivement. La règle appliquée dans la Bible est la suivante. D'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le grain tout formé dans l'épi. Marc 4, verset 28. Un écrivain sacré reçoit les premiers éléments d'une révélation, les approfondit et les transcrit. Souvent, des siècles plus tard, un autre écrivain sacré est poussé par le Saint-Esprit à y ajouter des nouveaux détails jusqu'à ce que l'ensemble soit constitué. Du commencement à la fin, la Bible annonce la rédemption. On vient de voir la Genèse. Dans la Genèse, on ne parle que du Messie à venir. Et comment chaque personnage amène quelque chose de différent pour amener ce personnage-là. Alors, du commencement à la fin, la Bible développe un grand thème, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on nous conseille de... J'avais déjà donné une feuille avec 10 questions quand on lit la Bible. S'habituer à lire la Bible avec, en questionnant le texte. La Bible, d'un couvert à l'autre, surtout dans l'Ancien Testament, nous parle de Christ. Si on ne prend pas la peine d'essayer de fouiller qu'est-ce que le texte veut nous enseigner sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, on manque le bateau. C'est pas juste des histoires que le Seigneur veut nous raconter, en nous racontant l'histoire de Joseph ou de toutes ces histoires-là. Ça le dit dans le Nouveau Testament qu'il nous a donné les Écritures dans le but de notre instruction et pour nous servir d'exemple. Et ça parle de Christ partout dans la Bible. Le fil conducteur des Écritures, c'est Jésus-Christ. Si on a compris ça, on a compris un gros morceau. Enfin, les écrivains sacrés, plus de 40, qui ont rédigé leurs textes au cours de plus de 15 siècles, ont élaboré dans une parfaite harmonie une doctrine progressivement révélée. Pour tout esprit sincère, c'est la preuve indiscutable de l'inspiration divine de la Bible. Je me souviens quand on discute des fois avec des inconvertis, quand on parle de la Bible, c'est écrit par les hommes, ça? Comment on entend parler de ça? On entend ça régulièrement. Je me souviens, on avait déjà eu une discussion, une fois on en a rencontré quelqu'un, on ne demande pas son nom, mais en tout cas. Mais il existe des outils aujourd'hui qu'on peut donner au monde qui nous amènent des pareils arguments qu'il y a des arguments bibliques qui ont été écrits par des gens pour montrer que ça ne tient pas debout quand tu dis que c'est écrit par les hommes sur 1500 ans avec 40 auteurs différents, puis que ça se tient debout. Ça ne tiendrait pas debout si ça ne serait pas inspiré par la part de Dieu. Donc, la Bible est un livre de livres, je pense qu'on sait ça. 66 livres forment le livre. Donc, ces livres pourraient être considérés comme autant de chapitres, mais ce n'est qu'un aspect de la vérité, car chacun de ces 66 livres forme une entité et présente son propre sujet, sa propre analyse. C'est ce que mettent en évidence dans la présente édition les introductions et les divisions de chaque livre. C'est pourquoi il est nécessaire que l'on étudie les livres à la lumière de leurs thèmes distinctifs. La Genèse, par exemple, est le livre des commencements, où germe l'ensemble des vérités bibliques. Et ça, c'est le même pour tous les livres. Alors, si on lit un livre ou qu'on étudie un livre en le détachant de son but, pourquoi le livre a été écrit? On sait que la Genèse, c'est le livre des commencements. Si tu prends, on sait que, par exemple, l'Exode, c'est la rédemption, et il y a des termes comme ça pour chacun des livres. Et si on étudie la Bible sans tenir compte de ces choses-là, pourquoi on fait le survol? C'est justement pour ça. Pour apprendre à connaître le thème principal de chacun des livres et comment il se rattache avec le reste de la révélation. Et c'est là qu'on finit par avoir une vue d'ensemble des Écritures et de comprendre quelque chose. Combien de fois j'ai entendu cette expression-là? « Comprends rien dedans! » Hey, j'ai entendu un chrétien de 25 ans dire ça. Moi quand j'entends une affaire de même, je passe pas, je vais pas tomber sur le dos. 25 ans que t'es chrétien, tu comprends rien à la Bible. Mais là, faudrait que je te pose quelques questions. Il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie, là. Dans ta vie chrétienne, je parle. OK, la Bible, les livres de la Bible forment des grands groupes distincts. Donc, du point de vue très général, il y a 5 grandes divisions dans les Écritures et ces divisions dont Christ est le thème central. Donc, si vous regardez ça, il y a comme 5 grandes idées dans l'ensemble des Écritures. Il y a la préparation. Autrement dit, la préparation de l'envoi de Christ par le Seigneur. Ensuite, la manifestation. Jésus, un jour, le Messie, il s'est manifesté. Manifester, ça veut dire qu'il s'est rendu visible aux yeux des hommes. Ensuite, la propagation, le livre des Actes, c'est le livre où tout ce message-là a commencé à se promener dans le monde de l'époque. L'Asie, tout ce coin-là, une partie de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, tout ce coin-là. Donc, tu as la préparation, qui est l'Ancien Testament, la manifestation, qui est les Évangiles, la propagation, qui est les Actes des Apôtres, l'explication, c'est vrai, c'est comme 5 grands thèmes. Dans le livre des Épîtres, on apprend, on nous explique des choses. Pourquoi le livre des Romains est placé suite après le livre des Actes de la propagation? C'est parce que le livre de Romains explique le salut. Si tu veux comprendre le salut, lis Romains. Tout est là. Alors, l'explication, c'est dans les Épîtres. Et tu as la 5e grande idée, qui est l'achèvement. Toute cette histoire-là qui a commencé dans la Genèse, Christ s'est présenté dans les Évangiles. Dans le livre des Actes, ça s'est répandu. Dans les Épîtres, on a expliqué les différentes doctrines des Écritures. Et quand on arrive dans l'Apocalypse, c'est l'achèvement. Autrement dit, l'achèvement de toute cette œuvre-là que Dieu a faite dans le temps. On en voit l'achèvement. En d'autres termes, l'Ancien Testament est la préparation de la venue de Christ. Dans le Nouveau Testament, les Évangiles révèlent Christ manifesté sur la terre. Les Actes présentent son message prêché et propagé dans le monde. Dans les Épîtres, son Évangile est expliqué. Et dans l'Apocalypse, les objectifs de Dieu sont accomplis en Christ et par lui. Le thème central de la Bible, je pense qu'on ne vous apprend rien en vous disant ça, c'est la personne de Christ, la personne de Jésus-Christ, sa venue sur la terre comme Dieu manifesté en chair. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, c'est ça que ça dit, Christ manifesté en chair. Dieu, Christ est Dieu manifesté dans la chair. Sa mort expiatoire et sa résurrection constituent l'Évangile lui-même. Toutes les Écritures de l'Ancien Testament conduisent à lui, et toutes celles du Nouveau Testament découlent de lui. L'Évangile est prêché dans les Actes et expliqué dans les Épîtres. Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils d'Abraham, Fils de David, réunit ainsi tous les livres sacrés pour n'en former qu'un seul, issu de la femme, Genèse 3,15, c'est lui qui, en définitive, détruit les œuvres de Satan. Descendant d'Abraham, il est le dispensateur des bénédictions pour le monde. Descendant de David, il est le roi d'Israël et il sera l'arbitre des nations. Élevé à la droite de Dieu, il est la tête de l'Église qui est son corps. L'Église se réjouit à la perspective de l'accomplissement de la promesse. « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. » Jean 14, verset 3. C'est de lui que le Saint-Esprit rend témoignage pendant toute la période de l'Église. Le dernier livre qui couronne l'ensemble est l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Il va nous rester, on terminera la prochaine fois. On va arrêter ça là.